vient de passer devant les jardins du Sénat.
Les jardins Wallenstein
Ouais, les jardins Wallenstein, ils font partie des jardins baroques de Malastrana. Il y en a plusieurs, mais celui-là, il est intéressant parce qu'il est gratuit. Et il est vraiment agréable. Il y a des pans qui se baladent là. Pour la petite histoire, le personnage qui a fait construire le palais Wallenstein, donc qui accueille aujourd'hui le Sénat et le jardin à Pénon, il s'appelait Albrecht Wallenstein, il a vécu au XVIIe siècle. Et ce type-là, il était super mégalo. Il voulait un peu être calife à la place du calife, quoi. Et en fait, il a fait construire ce palais et ce jardin à proximité immédiate du château. Et il a fait appel à tous les plus grands artistes. Il a fait appel aux sculpteurs attitrés de la cour, etc. Enfin, il n'avait pas trop peur pour... pas trop peur. Et notamment, il s'est fait représenter... C'était un soldat, un militaire. Et il s'est fait représenter sur un de ses plafonds en dieu Mars. Okay. Ce qui est assez classique à l'époque hein, de se faire représenter. Enfin, je veux dire, Louis XIV, il a fait un classique. Pour les gens qui ont un peu d'orgueil quand même. Mais voilà, de se faire représenter avec la divinité qui correspond à notre... corps de métier, quoi, on va dire. Mais là où on voit qu'il est vraiment mégalo, monsieur Wallenstein, c'est que habituellement, le dieu Mars, il est représenté donc, dans son char tiré par deux chevaux. Okay. Lui, s'est fait représenter avec quatre chevaux qui tirent son char, s'il vous plaît. Voilà, je suis Mars, mais en mieux.
Il s'est pas fait, tuer
ça lui apprendra. Il s'est fait assassiner. Là, on vient de passer du coup, c'est dans les écuries du palais Wallenstein, c'est le bâtiment en fait qui clôture le jardin et aujourd'hui ça accueille des expositions régulièrement. En ce moment, je crois qu'il y en a une sur Joseph Manès, il y en a une sur Alphonse Mucha l'année dernière. Voilà, c'est des expos qui sont de très très bonne qualité, je les recommande à tous ceux qui nous écoutent.
Je pense qu'on va arriver au château de Prague dans pas longtemps.
On va pas trop tarder. D'abord, il y a la station Kralovski-Vetoradek. Et ça, c'est un endroit qui est hyper joli aussi. C'est le pavillon d'été en fait, de la reine Anne. Ferdinand Ier, il était empereur d'Autriche. Enfin, pas encore à l'époque. Il régnait sur l'Autriche et aussi du coup sur la Bohême parce que c'était déjà... on avait déjà été annexé entre guillemets par l'Autriche. Il a épousé Anne Jagellon et il lui a fait construire en fait un palais d'été ici, juste à l'extérieur du château. Là, on est à l'époque de la Renaissance et c'est un petit palais Renaissance qui est absolument magnifique, carrément même architecture Renaissance italienne, ce qui est assez rare à Prague. Et donc, il est orné de sgraffites. Enfin, surtout la salle du jeu de paume qui est une annexe qui est ornée de sgraffites absolument incroyable avec des motifs Renaissance. Donc, on appelle ça le style burlesque. Et là où c'est amusant dans ce graphique-là de la salle du jeu de paume, c'est qu'ils ont restauré en fait ce bâtiment-là pendant le régime communiste parce qu'il avait été bombardé en 1945. Et quand ils ont refait les graphiques, ils ont rajouté des petits éléments un petit peu personnels de l'époque, à savoir une petite fossile, un petit marteau par ici, par là. Enfin voilà, c'est un petit peu amusant parce qu'on est vraiment dans le style Renaissance, mais si on regarde bien, il y a des pièges. Donc voilà, c'est un peu amusant, mais c'est vraiment un très bel endroit. Il y a tout un parc autour, on peut se tourner dans le parc. C'est très agréable aussi comme endroit. Pareil, depuis les jardins, il y a un panorama sur la ville aussi qui est magnifique parce que là, on surplombe vraiment la Vltava, le quartier de Malastrana, tout ça, c'est très très joli. Et donc là, la prochaine station, ça va être le château de Prague, justement. Quand on passe ici, à l'automne, c'est parfait parce que toutes les feuilles sont oranges dans ces petits tunnels d'arbres. Moi, j'adore passer ici à l'automne. Et on longe en fait le château, on peut distinguer un petit peu la cathédrale entre les feuilles. Là, on va la voir un petit peu par ici. Là, c'est la salle du jeu de paume dont je vous ai parlé, qui est ce graphite. On vient de passer devant rapidement. Et donc, le château se trouve là. Le château qui est donc le siège des ducs de Bohème et des rois de Bohème, là, pas pendant toute l'histoire, mais quand même principalement pendant toute l'histoire du pays. Et aujourd'hui, c'est aussi le siège présidentiel. Donc, le président de la République siège ici, c'est le palais d'Élysée local. Mais ça se visite aussi, évidemment. Enfin, tout ne se visite pas forcément, mais on peut quand même y visiter la cathédrale Saint-Guy qui est magnifique, la petite ruelle d'or qui accueillait les orfèvres, les alchimistes, etc. Et là, on arrive à la station d'après qui s'appelle Brusnice. Et cette station, c'est là que je descends quand je veux aller dans le quartier du Nouveau Monde. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit quartier, c'est incroyable. C'est un sous-quartier un petit peu, on est toujours dans le quartier de Hradčany. Et en fait, il y a quoi, 2-3 rues, c'est la campagne. C'est des toutes petites maisons, collées les unes aux autres, avec des petites rues pavées, mais vraiment pavées, pas pavées nickel comme dans le centre-ville, pavées vintage, quoi. C'est très agréable et il faut savoir que là-bas, il y a ils ont un genre de convention collective en fait, de quartier pour ne pas louer en Airbnb ou quoi que ce soit, pour conserver un minimum d'authenticité à ce quartier-là, parce qu'effectivement, c'est tellement joli que ça pourrait très très vite devenir un peu un nid à touristes qui deviendrait, qui viendrait un peu dénaturer cet endroit qui est vraiment préservé, c'est vraiment hors du monde, c'est assez exceptionnel. Je recommande aussi d'aller y faire un tour à pied depuis le château, c'est 10 minutes quoi, et on descend et on se retrouve dans cette espèce de mini-vallée, c'est assez fou, c'est assez fou. Là, on arrive à la station qui s'appelle Pauvorgelette, c'est le nom de la place qui va se trouver juste à notre gauche, qui est une ravissante petite place avec des arcades sur le côté, enfin, comme on en a beaucoup ici en Tchéquie. Et ici, c'est là qu'on descend si on veut aller au monastère de Strauss. C'est le monastère des Prémontrés qui se trouve un tout petit peu au-dessus. Enfin, là, d'ailleurs, on voit ici les clochers de leur église, qui s'appelle l'église Notre-Dame de l'Assomption. Et dans le monastère de Strauss, il y a des choses qui sont très connues. Notamment la bibliothèque. Il y a deux salles de bibliothèque qui sont incroyables. Il y a la bibliothèque de théologie qui est la bibliothèque baroque et la salle de philosophie qui est dans le style néoclassique. Donc tout ça, c'est peint avec des fresques, c'est assez exceptionnel. Ça sert parfois de lieu pour des tournages, etc. Tellement c'est incroyable. Et ce qui m'a fait vachement rigoler quand j'ai. Enfin, rigoler. Vraiment, ouais, c'est ce qui m'a fait marrer. Quand j'ai visité la bibliothèque de philosophie, en fait, les fresques, elles représentent toute l'histoire de la pensée humaine à travers les philosophes. Donc on a Aristote, on a Socrate, on a, enfin voilà, toute l'histoire de la philosophie. Et donc ça date du XVIIIe siècle, et les derniers, du coup, philosophes, en termes de chronologie, à être représentés, ce sont les philosophes français des Lumières. Mais comme on est dans un monastère, ils n'étaient pas forcément très appréciés, ces philosophes-là. Et en fait, ils sont représentés, il y a des anges qui leur balancent des pierres, et donc ils sont représentés en train de se protéger avec leurs mains parce qu'ils sont en train de se faire punir par le ciel d'avoir des idées aussi progressistes, et donc ils se reçoivent des pierres. Voilà, ça me fait vraiment sourire, je me dis, les moines ils se lâchent quoi.
C'est vrai qu'il y a une belle vue aussi en dessous du couvent de Strava.
Oui, il y a une super vue, et aussi il y a une brasserie avec une excellente bière, on peut la boire sur place directement depuis la brasserie. Ça fait 800 ans qu'ils brassent leur bière, hein, donc c'est quand même un vrai héritage, et la bière est délicieuse, le panorama est incroyable, franchement c'est ouais, peut-être le meilleur spot de bière avec le Beer Garden de l'Etna, peut-être. C'est des salles de ambiance, mais c'est vraiment chouette. Et même la basilique aussi, elle est intéressante à voir. Notre-Dame de l'Assomption, parce qu'en fait, ici on a beaucoup d'églises baroques, mais les églises baroques, elles sont en général, le plan architectural n'est pas le même que les églises romanes ou les églises gothiques. Les églises romanes et gothiques, elles sont souvent avec plusieurs nefs, alors que les églises baroques sont une seule très large nef. Et en fait, celle-ci, à l'origine, c'est une église romane. Donc on est encore sur le style, enfin l'architecture, les murs en fait sont encore de l'église romane. Mais là-dessus, ils ont mis du baroque partout. Donc en fait, on croit qu'on rentre dans une église baroque. Et en fait, quand on regarde la structure, et bah, c'est complètement différent. Alors là, on est un peu sorti des endroits de l'amour de Prague. On est un petit peu plus dans les quartiers résidentiels, mais pas résidentiels avec des belles maisons. Justement, je vais me faire mentir moi-même. Parce que là où on traverse, il y a quand même des immeubles qui ne sont pas forcément hyper intéressants esthétiquement. Mais je crois que c'est par ici. Mais en fait, juste derrière, de chaque côté, il y a des zones protégées de villages en fait. Okay. En fait, qui étaient avant que ça soit Prague. Il y avait des villages qui ont été au fur et à mesure réunifiés avec Prague parce que Prague s'étendait. Et il y a encore des petits endroits comme ça, c'est protégé, c'est des petites maisons, des petites rues. D'une certaine façon, un petit peu comme au Nouveau Monde dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais différent, parce que là-bas c'est vraiment juste 2-3 rues, là c'est des villages. Là par contre, on retourne dans quelque chose d'historique et culturel. On arrive au monastère de Brzeznów. C'est le plus ancien monastère de la Tchéquie actuelle, de la Bohème de l'époque. Il date de la fin du Xe siècle, il a été fondé par Saint Adalbert, qui est un des patrons de la ville de Prague. C'est un monastère de bénédictins. Ils ont aussi leur propre brasserie, avec une bière qui est également excellente. Et qui est du coup encore plus ancienne que celle de Strauss, pour vous dire. Et ils ont leur église, elle s'appelle Sainte-Catherine, et elle est l'œuvre des Dientzenhofer. C'est deux architectes, le père et le fils, Christophe et Kilian Ignace. C'est eux qui ont fait aussi l'église Saint-Nicolas de Malastrana qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont fait aussi l'église Saint-Nicolas sur la place de la Vieille Ville. Et c'est eux qui ont réalisé cette église qui est magnifique, l'intérieur est incroyable. Et en fait, ce monastère était extrêmement puissant. Ils avaient un territoire, enfin leur possession ici à Prague, ça allait jusqu'à l'aéroport. Donc c'est vraiment immense. Et ils possédaient aussi, on va y passer, la réserve de Obora Fiesta. On va y passer dans 2-3 stations. Et ils possédaient ça aussi. Après ça, ça a été récupéré par le pouvoir, par le fils de Ferdinand Ier. Parmi les 15 enfants, il y en avait un qui s'appelait Ferdinand, comme son père. Ferdinand de Tyrol, et lui il était gouverneur de Bohême. Donc on est là au XVIe siècle, et donc lui il a récupéré en fait cette réserve pour en faire un peu son terrain de chasse. Il a fait construire là-bas un pavillon de chasse justement en forme d'étoile. C'est pour ça que ça s'appelle Obora Fiesta, parce que Fiesta en tchèque ça veut dire étoile. Et c'est une étoile à 6 branches, c'est vraiment joli, même quand on la voit, il y a des photos en drone et tout ça, c'est vraiment intéressant. Et pourquoi une étoile à 6 branches? Parce que à la Renaissance, c'était la façon de représenter le cosmos, c'est comme ça qu'on visualisait le truc. Et donc c'était un peu une façon de rentrer en connexion avec les éléments, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont là-bas, des gens qui aiment bien les trucs un peu ésotériques, etc., et qui vont là-bas parce qu'il y aurait des vibrations spéciales. Connexion du cosmos et tout ça. Okay. En tout cas, c'est un très joli parc. Donc, c'était une réserve de chasse et aujourd'hui, c'est juste un parc. Mais c'est une zone qui est classée Natura 2000 parce qu'il y a des. Natura 2000, ça veut dire qu'on ne peut pas construire des trucs, enfin, c'est protégé, c'est une zone protégée, quoi. Parce qu'il y a des espèces rares là-bas et notamment, j'ai vu ça, qu'il y a des escargots dont j'ai oublié le nom parce que je ne suis pas très spécialiste de la faune et encore moins des escargots, je dois bien le dire. Mais en tout cas, voilà, les escargots de Obora Fiesta sont protégés. Donc attention où on marche quand on va se promener là-bas.
Il y a beaucoup d'églises jaunes, pourquoi est-ce que vous savez?
Pourquoi c'est jaune? Je ne sais pas pourquoi c'est jaune. Pourquoi le jaune? Parce que c'est joli peut-être. Mais en tout cas, je sais que en fait, la pierre qui est utilisée pour un certain nombre de constructions, notamment à l'époque médiévale, c'est une pierre qui s'oxyde à l'air libre et donc qui noircit très vite. C'est pour ça, par exemple, que la tour poudrière est toute noire. C'est pas que à cause de la pollution, c'est aussi parce que la pierre est comme ça. Et en fait, mettre un enduit et de la couleur, ça permet tout simplement d'éviter que ça noircisse et ça reste joli tout le temps. Et donc là, on est en train d'arriver à Villajora, qui est le terminus de la ligne 22, et c'est un endroit qui est assez important, enfin hyper important même dans l'histoire tchèque, parce que c'est là qu'a eu la bataille de la Montagne Blanche en 1620, et donc c'était pendant les guerres de religion qui ont eu lieu en Europe centrale, donc la guerre de 30 ans, et ici la guerre de 30 ans n'a duré que 2 ans, parce que justement à Villajora, les Tchèques ont été écrasés en fait par les armées autrichiennes. Et c'est ici que ça s'est passé, et c'est un souvenir qui est assez sanglant dans la mémoire collective.
Merci beaucoup Jeanne Fedel d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup pour votre expertise sur la ville de Prague.
Merci de m'avoir invitée. C'est toujours pour moi un vrai plaisir de partager mon amour de la ville, parce que je crois que ça s'entend quand je parle, mais Prague, c'est le deuxième amour de ma vie.
Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Un Tour à Prague, qui sera indiqué sur le site internet de Radio Prague International.